accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour, vous l'aurez peut-être reconnu, ce n'est qu'un au revoir. Voilà ce qu'ont chanté debout des députés européens particulièrement émus hier lors du vote de retrait de l'Union européenne au Parlement européen. 621 voix pour, 49 contre et 13 abstentions. À Bruxelles aussi, le feu vert a donc été donné. La Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne demain. Dans l'histoire de l'Europe, c'est une première. Jamais un État membre n'a quitté cette Union créée quelques années après la Seconde Guerre mondiale. De part et d'autre de la Manche, ce départ est synonyme d'un certain nombre d'incertitudes. Et d'abord, sur la politique agricole commune, c'est l'un des piliers de l'Europe. Une fois dehors et dès la fin de cette année, la Grande-Bretagne ne pourra plus prétendre à cette vaste enveloppe de subventions. De 2021 à 2027, il y aura une transition pendant laquelle le gouvernement britannique introduira ces nouvelles aides. Mais à quel niveau vont-elles s'élever ? Notre correspondante Marie Billon s'est rendue dans les régions du sud de l'Angleterre, très rurales, du Surrey et du Kent, pour interroger les agriculteurs sur leurs attentes, mais pas seulement. Reportage.
Ce n'est pas un chien qui marche sur les talons de Hugh lorsqu'il travaille, c'est un chat. Hugh n'a pas besoin de toutou. Cela fait quelques années qu'à sa ferme, Sanders Place, au pied des collines de la région du Surrey, il a abandonné l'élevage de moutons pour se concentrer sur les bovins. Il a donc un animal de compagnie qui correspond mieux à ses besoins et il espère que ce sera la même chose pour les subventions.
L'opportunité de créer un système fait sur mesure pour notre agriculture est assez excitant. Mais soyons clairs, la PAC a été un succès et pour l'instant, le gouvernement n'a pas beaucoup donné de détails. On sait qu'il veut s'éloigner du système qui conditionnait le paiement à la taille des terres pour le remplacer par des aides basées sur trois critères. Environnement, productivité et ensuite nous, les fermiers, nous lui faisons savoir que nous aimerions une sorte de coussin pour les imprévisibles, comme la mauvaise météo, une sorte d'assurance.
Hugh tourne et retourne la paille dans un des enclos où se trouvent quelques dizaines de veaux. Mais même s'il a fait campagne contre le Brexit, il ne tourne et retourne pas les résultats dans sa tête. Une fois voté, il a accepté l'idée de la sortie et est pressé d'en savoir plus. Le nouveau Parlement, élu en décembre, a commencé l'étude de la nouvelle loi sur l'agriculture et Hugh est optimiste.
Le gouvernement doit se demander ce qu'est sa priorité. La nourriture à bas prix ou les beaux paysages, on ne peut pas avoir les deux. Parce que ce sont les exploitations qui font que les paysages, les collines ressemblent à ça. C'est parce qu'on cultive la terre ou que les animaux paissent. Si on veut de la nourriture à bas prix dans le pays, on met les fermiers sur la paille et on profite de la globalisation. Mais dans ce cas, il ne faut pas s'attendre à avoir de jolies promenades dans la nature. Dans la première mouture de la loi sur l'agriculture, on parlait beaucoup d'argent public pour le bien de la population, d'environnement. C'est important, mais une ferme dans le rouge ne peut rien faire de vert. La dernière version mentionne la sécurité alimentaire. Et j'espère que le gouvernement prend ça au sérieux et accorde de l'importance à ses agriculteurs.
Car pour l'instant, ce texte n'écarte pas la possibilité d'ouvrir le marché alimentaire, libéré des contraintes imposées par l'Union européenne. Le bœuf aux hormones, le poulet chloré, les fruits et légumes OGM, l'importation de tout ça reste possible après 2021. Et comme les prix seront bas, les fermiers britanniques, conservant des standards de haute qualité puisque leurs subventions seraient liées au respect de la nature et de l'environnement, ne pourraient pas s'en sortir. Le principal syndicat agricole, le NFU, Greenpeace et une soixantaine d'autres organisations ont envoyé une lettre ouverte à Boris Johnson fin janvier pour lui demander de faire de l'agriculture britannique une pionnière en termes de normes, de qualité et de durabilité. Mais pour Hugh, il y a une autre grande question.
Combien le gouvernement est-il prêt à dépenser ? Parce que s'il a un budget de 5 livres, autant en remballer tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit 2,8 milliards d'euros de la part de la PAC. On sait qu'on aura cette somme jusqu'en 2027, mais on n'a aucune idée pour après.
Hugh monte dans son tracteur pour reprendre le travail sans beaucoup d'illusions. Il s'attend à ce que les subventions soient moins généreuses. Elles représentent pour lui environ 16% de ses revenus annuels, car il a déjà misé sur la diversification. Il loue par exemple une de ses anciennes étables à un réseau qui a installé des batteries, distribuant l'électricité dans la région quand les énergies renouvelables ne sont pas disponibles. Certains fermiers sont beaucoup plus dépendants dépendants des aides européennes que Hue. Elles représentent parfois la moitié, voire plus, de leurs revenus. Et les agriculteurs ne sont pas les seuls à compter là-dessus.
Je suis Keith Harrison, chef exécutif d'une association nommée Action avec les communautés rurales du Kent, qui, depuis 1923, aide à surmonter les désavantages venant de la ruralité. Nous nous trouvons dans la salle polyvalente de Wye, un village de 2000 habitants.
En cette fin d'après-midi, le hall est une garderie. On peut aussi y faire des cours de yoga, du bridge ou du networking pour son entreprise. C'est aussi un bureau de vote lors des élections. Dans ce petit village, la salle polyvalente est le cœur de la communauté.
L'endroit était devenu vétuste. Il y a 5 ou 6 ans, le comité local a décidé de le rénover en levant des fonds auprès des commerces locaux, en prenant un emprunt auprès d'un organisme britannique qui aide les communautés rurales. Et il a aussi obtenu des subventions du programme Leader, qui fait partie de la PAC.
Les États membres doivent allouer 5% de leur budget dédié au développement rural de la PAC à Leader. 19% du coût de la rénovation de la salle polyvalente de Wye a donc été payé par ce programme. Et il y a 400 salles communales dans le Kent, dont certaines sont très vieillies, et bien d'autres projets nécessitant des fonds dans les campagnes. Alors Keith s'inquiète.
La PAC fonctionne très bien pour nous, car elle a un volet développement rural, isolement, lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous espérons que la nouvelle loi sur l'agriculture laisse au moins ouverte la possibilité de couvrir ces critères, mais pour l'instant, on ne sait pas. Le texte se concentre beaucoup sur l'agriculture, la gestion forestière, l'horticulture, et nous craignons que les 9 millions de ruraux qui ne vivent pas de la terre soient oubliés.
Il y a d'autres options pour ce genre de financement. Le Fonds pour la prospérité partagée, par exemple, qui existe déjà, ou bien celui qui pourrait être mis en place pour les régions laissées pour compte. KIF et son organisation sont en contact avec le gouvernement pour s'assurer que la source d'où qu'elle provienne ne se tarisse pas.
Depuis 3 ans et demi et le oui au référendum, la saga du Brexit a aussi été marquée par la question de la frontière irlandaise. Car l'île est divisée en deux, l'Irlande du Nord appartient à la Grande-Bretagne, la République d'Irlande à l'Europe. La frontière entre les deux devient donc aussi la seule démarcation terrestre entre l'Union et le Royaume-Uni et promet de devenir un casse-tête si des contrôles de douane ou d'immigration sont mis en place. Résultat, il y a 2 ans, un internaute s'est amusé à donner une voix à cette frontière. Le compte Irish Border sur Twitter et ses 110 000 followers suit l'actualité du Brexit avec un humour décapant. Notre correspondante en Irlande, Emeline Vin, a rencontré l'auteur du compte et la première question qu'on a voulu lui poser, c'est pourquoi il a commencé.
Ça a commencé un peu au milieu du Brexit en février 2018. Je sortais du boulot un soir et je pensais à la manière dont les gens parlaient de la frontière irlandaise, comme si c'était quelque chose de réel. Je la traverse régulièrement et je trouvais vraiment ça drôle de parler de quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui n'existe pas. À l'époque, il y avait un compte Twitter pour une rivière en Nouvelle-Zélande qui avait été reconnue personne légale pour la protéger. Au début, c'était une parole mélancolique, anxieuse, inquiète à l'idée de ce qui allait lui arriver. Et puis, au fur et à mesure, le compte Twitter a évolué. Il est devenu plus complexe, plus sûr de lui.
Et qu'est-ce que vous avez cherché à faire ?
Principalement, j'essaye d'informer les gens sur la politique du Brexit. Et puis, ça me donne une liberté pour parler du Brexit que je n'aurais pas dans ma vie de tous les jours. Mais je n'imaginais pas que ça aurait autant de succès et prendrait autant de place dans ma vie.
D'après votre compte, Border Irish, cette frontière, elle ressemble à quoi ?
À toutes sortes de choses. Elle a plusieurs apparences. L'une d'elles, c'est un morceau de pelouse qui parle, qui bouge. La frontière part souvent en vacances et personne ne le remarque parce que les gens ne la voient pas de toute façon. L'un des tweets que j'ai fait et qui a eu le plus de succès, c'était au tout début. C'est là que le compte a vraiment décollé. C'était une image d'un éléphant au milieu d'une pièce où des hommes tenaient une réunion d'affaires et la légende disait « Me voici à la table des négociations sur le Brexit ». Ça a été vu par 2 millions de personnes. Alors la frontière est devenue un éléphant parce que c'est l'éléphant dans la pièce. C'est ce qu'on dit en anglais pour les sujets majeurs, mais dont personne ne veut parler.
Ça fait 2 ans que vous gérez ce compte, The Irish Border. Quel retour est-ce que vous avez reçu ?
Beaucoup de gens aiment ce que je fais. Ils en tirent de la joie. C'est le principal pour moi, que les gens rient. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas. Certains ne trouvent pas ça drôle. Ils ont le droit. Et puis, pour d'autres, ils estiment que je rends trivial un sujet qui est encore une plaie ouverte sur l'Irlande, la partition de l'île. Si vous voulez la réunification de l'Irlande, rire de la frontière peut sembler un peu de mauvais goût. Je comprends bien, mais même dans ce contexte, c'est une chose intéressante. Je ne vais pas les nommer, mais il y a deux personnes qui correspondent avec le comte. Ce sont tous les deux des fervents républicains très connus. Même eux trouvent ça drôle.
Alors comment elle va en ce moment, la frontière ?
Depuis quelques jours, je me sens plus optimiste. Le Parlement nord-irlandais siège à nouveau et les partis ont décidé de travailler main dans la main parce qu'ils n'ont pas le choix.
La région n'avait plus d'exécutif depuis 3 ans.
Peut-être que d'une manière un peu bizarre, j'ai tout faux depuis le début. Je pensais que le Brexit allait précipiter l'Irlande du Nord dans un état de terrible confusion qui pouvait amener à tout. Peut-être que ce n'était pas la bonne manière de voir les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire face à toute cette incertitude, l'Irlande du Nord s'est enfin mise à régler ses problèmes. Peut-être qu'au fond, il y a un côté positif à tout ça.
Direction la Roumanie à présent pour une autre histoire de changement de vie. Ici, pas question de quitter l'Europe, mais plutôt de quitter son métier. Après 10 ans passés à travailler dans la finance et l'immobilier, Bogdan Nicolescu a choisi de tout changer. À la trentaine, il s'est reconverti dans l'agriculture. Son concept, produire et livrer des légumes cultivés à l'ancienne au Bucarestois, c'est le reportage de Benjamin Ribou.
Il est 6h du matin et Bogdan contourne Bucarest pour se rendre à Sohratu, village situé à 45 km de chez lui, où sa famille possède des terres. Un trajet que Bogdan peut faire 4 à 5 fois par semaine. Le jeune homme, la trentaine décontractée dans sa petite voiture remplie de cagettes à légumes, est venu ramasser les dernières tomates, concombres, poivrons et aubergines.
On est en route vers l'un de mes jardins où j'ai installé une serre. La région a les terres les plus fertiles du pays. Certains particuliers se sont remis à l'agriculture récemment. On trouve des producteurs de légumes qui ont eux aussi des serres et quelques vergers. Mais plus de 90% des terres ici sont consacrées à l'agriculture intensive. Ce sont surtout des céréales. Ici, comme dans n'importe quelle commune de Roumanie, c'est le maire qui possède tout. Le nôtre a une plantation de fraises et la cueillette est faite par des gens dépendants des aides sociales.
Pour Bogdan, trouver de la main-d'œuvre est devenu très difficile, notamment car les jeunes du coin sont partis. Du coup, son affaire, il l'a faite en famille, aidé par sa grand-mère, sa mère et son oncle qui ont tous fait de l'agriculture dans leur vie. En son temps, le grand-père de Bogdan a même été le premier du village à avoir des serres.
Ça y est, on y est, voilà la serre. Ah, quelle air pur. Enfant, je venais en vacances ici et tu n'y coupais pas, tu devais faire ta part de travail au champ. À l'époque, je ne savais pas comment m'enfuir. Et puis un jour, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement et j'ai demandé à ma mère de m'aider car elle s'y connaissait.
Je lui ai dit non, c'est très dur, tu verras. Mais aujourd'hui, il est son propre patron.
Cette reconversion, Bogdan ne la fait pas n'importe comment. Très vite, il se fait connaître pour ses tomates généreuses qui dépassent parfois 1,5 kg. Il se diversifie aussi. Ici, aubergines, courgettes, légumes en bocaux et vente de plants de tomates à 1 euro pièce. Il choisit de miser sur des produits sains et qui ont le goût d'autrefois. Une agriculture traditionnelle, mais pas bio, précise-t-il.
Moi, c'est une banque de semences qui m'a fournie gratuitement. Elle a été créée par des fonds européens et elle rassemble des semences traditionnelles utilisées par les paysans roumains. Moi, j'ai choisi la voie traditionnelle. Rien n'est mécanisé ici. On creuse à la main et on ne fait intervenir aucun intrant chimique. C'est moi qui ramasse mes légumes, qui les range dans les caisses et vais les livrer le jour même. Il n'y a pas de légumes plus frais sur le marché. Entre ma serre et le client, il n'y a que quelques heures. C'est le circuit le plus court possible.
Aujourd'hui, Bogdan possède 3 autres serres sur un autre terrain à près de 2 heures de route. Il passe donc une bonne partie de son temps en voiture, d'autant qu'il a choisi de livrer ses clients lui-même. Pour se faciliter la tâche, il les livre sur leur lieu de travail. Entre 2 compagnies privées, Bogdan met le cap sur l'un des bureaux du ministère des Télécommunications où l'attend Sabine.
Avant de faire appel à moi, la plupart de mes clients n'avaient même pas le temps d'aller à l'épicerie. épicerie. On peut dire que je suis tombé à pic pour eux.
Allô,
salut Sabine, je suis arrivé.
Le manque de garantie sur la qualité des fruits et légumes en vente à Bucarest, conjugué au nouveau mode de vie, font le bonheur de Bogdan. Ses commandes ont explosé. Plus d'une centaine de personnes font appel à lui. Il envisage déjà de se développer en construisant de nouvelles serres et en embauchant.
Musique.
Brexit oblige, Vincent Teval, vous nous emmenez en Grande-Bretagne aujourd'hui pour votre chronique musicale. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa-Lisa.
Vous avez choisi de nous parler de la chanteuse anglaise Rachel Dadd et de son dernier album assez politique.
Ah oui, Flux, c'est le titre du nouvel album que l'anglaise Rachel Dadd a publié il y a quelques semaines. C'est le 6e disque en 10 ans pour cette autrice, compositrice, touche à tout, qui partage son temps entre Bristol, en Angleterre, et le Japon, d'où est originaire son mari, également musicien. Des cultures différentes qui nourrissent l'imaginaire et les chansons de Rachel Dadd et affûtent son regard sur les questions politiques de l'époque. C'est ainsi qu'il faut entendre le titre de cet album, ce flux des événements et décisions contre lesquels il est toujours possible de s'élever. Une chanson notamment évoque la politique très stricte du Royaume-Uni en matière de visa. Quant au titre que je vous propose, Two Islands, c'est une réflexion sur les questions d'identité et d'ouverture au changement qui traversent les îles, comme celle du Japon ou du Royaume-Uni par exemple.
C'était Rachel Dadd et son morceau Two Islands sur RFI. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Ludivine Amado. Pour nous écouter à toute heure, rendez-vous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.